Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nina, comment ça va?
Bien.
Ça
je suis
fait
contente
plaisir.
D'être là, ouais.
Trois ans plus tard, ouais. On passe d'un parc avec une petite caméra à d'un coup on est dans le studio.
Ouais, je comprends pas trop ce qui s'est passé, il y a eu hein. Une grosse expansion là.
Et je suis trop content parce qu'en fait on va parler de la même thématique pour laquelle je t'ai invité il y a trois ans, mais là on va avoir plus le temps d'en parler. Et puis surtout il s'est passé plein de choses dans ta vie.
Yes.
Donc c'est trop cool et je trouve que c'est une thématique dont on parle pas assez et où mine de rien c'est pas évident de trouver des personnes qui sont légitimes à en parler, qui ont envie d'en parler aussi et qui ont un peu de recul. Et donc voilà, je pensais à toi direct, donc ça c'est cool.
Merci, je suis trop contente.
Est-ce que tu peux me dire quand est-ce que t'as découvert ce qu'était le polyamour et que t'as commencé à t'y intéresser?
C'était il y a 7 ans je pense et... J'étais aux États-Unis pour un volontariat et j'ai rencontré deux gars qui étaient polyamoureux.
Okay.
Et moi, à ce moment-là, j'étais en pause avec mon mec. Voilà, on savait qu'on allait se retrouver après, mais c'était compliqué.
Parce qu'à ce moment-là, avec ces deux gars-là, quelle était la différence entre juste avoir des plans cul avec eux, tu vois, et vraiment être polyamoureuse?
En fait, c'est qu'eux, ils avaient chacun une partenaire.
D'accord.
Avec qui ils étaient vraiment en mode polyamour. Il y en a un avec qui sa partenaire, il se racontait tout, elle me connaissait. On a pris des verres ensemble, toutes okay. les deux, pour justement discuter, créer du lien, etc. L'autre, ils étaient dans une dynamique où on sait qu'on est polyamoureux, mais on se dit pas, on se raconte pas les choses. Du coup, en plus, je pouvais voir les deux comment ça marchait. Et je connaissais okay. les deux copines, mais il y en a une où j'étais incognito et une où on devenait copine, quoi.
Okay.
Donc, j'expérimentais le polyamour comme ça, mais après, moi je savais que j'étais là pour 5 mois et même si je me suis vraiment investie émotionnellement avec les deux, il y avait quand même une sorte de date limite et je savais que je retournais après voir mon amoureux en France. Bon, je sais pas trop, mais je me disais ça se trouve on va continuer, mais c'est plus que je commençais à réfléchir, ok, ma relation, celle de longue date, comment est-ce qu'elle va s'intégrer du coup à ce nouveau modèle. Du coup on a commencé à en parler, c'était difficile au début.
Ouais. Oui, mais parce voilà. que du coup, tu rentres en France et avec ton amoureux, du coup, vous dites « Ok, là, on est ensemble.
»
Et directement, toi, tu lui dis « Je pense que j'ai découvert un truc et je veux qu'on ouvre notre couple.
» L'histoire, c'est que quand j'étais aux États-Unis, j'ai appris, enfin, il m'a dit... parce que du coup, je parlais beaucoup d'honnêteté, de communication, du fait que je trouvais que ça était vraiment mieux de pouvoir se dire les choses, de pouvoir se dire qu'on a du désir pour d'autres gens et que c'est pas facile. Dans les relations monogames, souvent, c'est un sujet un peu tabou, même dire que tu kiffes telle actrice ou telle... Parfois, c'est tendu.
Ouais.
Du coup, je parlais beaucoup de ça, etc. Et au bout d'un moment, je pense qu'il y a quelque chose qui a lâché en lui et il m'a avoué qu'il m'avait trompée quand on était ensemble.
Okay.
Et donc on a passé 7 heures sur Skype, je crois.
Ah là là. Lui avait la culpabilité du truc.
Ouais. Il avait mis ça de côté en fait.
Ouais.
Il avait vraiment oublié ses expériences. C'était des trucs, des one shot qui okay. pour lui n'avaient pas d'incidence sur son amour en quelque sorte pour moi. Et donc ça a détruit mon univers parce que je suis une grande romantique, j'adore l'amour, j'adore les films d'amour, tout ça. Et notre histoire était si belle, c'était impossible que ça nous arrive, tu vois.
Mmh.
Et du coup, ça m'a cassé une forme de naïveté aussi, potentiellement, tu vois, où genre, je me suis dit, ah ouais, en fait, même nous, ça nous arrive, ok. Plus je vois les gens qui vivent du polyamour, plus je lis les livres, plus je me rends compte que moi, quand j'avais 18 ans, j'étais amoureuse de deux gars en même temps.
Ouais.
Mais on s'est dit, on est peut-être un peu fou, mais je sais pas, mais on s'est dit, bah, on retente le couple à distance, en couple ouvert, et on essaye de reconstruire cette blessure, quoi.
Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble à ce moment-là?
Je pense 5 ans.
Ok. Donc il y avait quand même une base de couple ouais. qui était là. Est-ce qu'il y a des couples qui arrivent directement en couple ouvert?
Oui. Enfin, moi, là, par exemple, mes nouvelles relations, bah, dès le départ, elles sont ouais. en mode pluriel, quoi.
Okay.
Je pense pas qu'il y en ait un qui est meilleur qu'un autre. Il y en a qui disent que je préfère d'abord consolider et être plus en mode exclusif, monogame, et au bout d'un moment ouvrir, ce qui a du sens aussi. Hein, parce que, et puis même au début, quand tu rencontres quelqu'un, il y a cette énergie d'enthousiasme du début, t'es à fond, tu veux tout comprendre sur l'autre, qui il est, donc t'as même pas beaucoup de temps pour voir d'autres gens en ouais. vrai.
Là aujourd'hui, t'as combien d'amoureux? Tu peux les compter?
Trois.
Trois, ok. c'est horrible, mais est-ce que genre... parce que déjà, je me dis, une relation de couple, je le vois, c'est quand même beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps de remise en question, etc. Est-ce que t'as l'impression d'arriver à t'investir autant dans chacune des relations ?
Non, pour moi, elles ont chacune une couleur différente. Il y en a un des trois, c'est mon amoureux de très longue date, que je considère toujours comme un amoureux. Et en même temps, on se voit beaucoup moins, on ressemble à des ex, dans un sens. Mais on est toujours là, on s'écrit des messages. Dès qu'on a, si on a besoin de soutien, on sait que l'autre, il est là pour nous. On connaissait tellement nos vies que genre, les choses vont plus vite, quoi, quand tu racontes des choses. Et on a toujours envie de se voir, et il peut toujours y avoir de l'affection, de la sexualité, enfin, tu vois. Donc, c'est juste une relation que d'autres gens, peut-être, identifieraient comme des ex qui couchent encore ensemble de temps en temps. Ouais. Mais j'aime pas cette manière-là de le voir. Donc, pour moi, ça reste un amoureux. Mais juste la relation, on sent qu'elle évolue et qu'elle... Et ça se trouve, dans 10 ans, on habitera ensemble, tu vois. Enfin, sais rien, en fait, qu'est-ce qui va se passer, mais voilà.
C'est juste l'évolution du couple, quoi.
C'est ça, c'est là où on en est aujourd'hui. Et quelles sont nos envies, nos motivations, qu'est-ce qui nous fait... Enfin, tu vois, quels sont aussi les projets, les activités qu'on a envie de faire. Ouais. Et si elles sont pas... Si elles matchent pas, bah, tu passes moins de temps ensemble, forcément, quoi.
Ouais.
Donc, tu vois, il y a cette relation-là, il y en a... Et après, les deux autres sont plus récentes. Et ouais, elles ont des couleurs différentes. Il y en a un où, quand on s'est rencontrés, depuis, on s'appelle tous les jours et on peut passer 3-4 heures au téléphone par jour. Okay. C'est assez très intense, fusionnel, etc. L'autre avec qui on s'est... Enfin, on est tous les deux nomades, donc on se retrouve à des moments, tu vois, et là, on passe une semaine où il y a un aspect aussi très business ensemble. On aime bien créer des choses, donc on organise une retraite ensemble.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir éradiqué la jalousie ?
Ah, pas du tout.
Parce qu'en fait, le premier truc, je pense, et je pense que quand on parle autour de toi et tout, moi, de base, je me dis, ah ouais, mais comment je pourrais pas, tu vois. Et je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est genre, je pourrais pas... partager la personne avec qui je vis, etc. Il y a un truc d'exclusivité, on a été éduqués aussi comme ça. Et en fait, le couple libre, ça donne l'impression, le polyamour, de se dire, vu que la personne ne nous appartient pas, et qui d'ailleurs est, je pense, une notion où même dans un couple exclusif, on devrait arriver à recentrer ce truc-là, de se dire, ok, la personne avec qui on est, même si on couche pas avec d'autres personnes, etc., ça reste une personne individuelle à part entière, elle ne nous appartient pas. Je pense que ça réglerait déjà beaucoup de problèmes dans les couples.
De ouf.
Et malgré tout, on a tendance à se dire, bon, ça veut dire qu'un couple qui n'est pas exclusif, forcément, ils ont aboli la jalousie entière, tu vois. C'est bon, vous avez réglé ce truc-là, la personne ne vous appartient pas, elle peut faire ce qu'elle veut, et chacun accepte la relation unique que vous avez, quoi.
Ouais, bah, j'aimerais bien, ouais. Ce serait chouette, donnez-moi la pilule, je suis prête à la prendre. Enfin, et il y a des gens, non, j'ai rencontré des gens qui vraiment avaient très peu de jalousie, quoi. Mais bon, voilà, je pense que c'est très personnel, ça dépend de ton schéma de vie, ça dépend de tes styles d'attachement, de tes traumas, pas tes traumas, enfin, plein de trucs, tu vois. Mais c'est pas le cas, et je pense que la plupart des gens qui vivent du couple ouvert, du polyamour, expérimentent encore de la jalousie, mais c'est comment ta relation à la jalousie, mais tout comme ta relation à la colère, ta relation à la tristesse, tu vois, il y a des gens qui vont être très à l'aise avec leur tristesse, il y en a qui vont devoir la coincer toujours et pas la montrer.
Ouais.
Et pour moi, la jalousie, on nous a un peu appris que c'est genre, ça veut dire que quelque chose va pas, et l'autre fait quelque chose de mal presque, et faut que tu reviennes vers moi pour pas que je me sente jalouse, quoi. Moi, c'est même plus parfois de la possessivité que de la jalousie,
okay.
Que je trouve que c'est pas exactement la même couleur, tu vois, la même émotion. Un truc, genre, non mais c'est à moi, que je partage pas, genre, j'ai vraiment des gros sentiments comme ça parfois. Et du coup, bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, quelles sont les peurs qui sont activées derrière, et au final, c'est d'avoir cette... pour moi aussi, c'est pourquoi est-ce que je suis en relation avec des gens, quelle est la motivation derrière. Alors certes, c'est passer du bon temps, tu vois, avoir des bons moments, etc. Mais pour moi, il y a un vrai aussi désir de grandir, en quelque sorte.
Quand on parle de couple, on a tendance à penser aussi au projet de vie, d'un couple qui avance, etc. Comment toi, tu vois ça ? Est-ce qu'à l'avenir, tu te vois avoir des enfants ? Est-ce que tu te vois habiter avec un des mecs ou les trois mecs ? Comment ça se passe ? Parce que j'imagine que c'est des questions purement matérielles et concrètes qui se posent, quoi.
Ouais. Je sais pas si je veux des enfants encore.
Okay.
Récemment, c'est venu un peu plus me titiller, genre, ah, je crois que j'aimerais être enceinte. Je suis pas sûre si je veux des enfants. Okay. Tu vois, bon.
C'est compliqué de pas avoir la dernière étape.
C'est compliqué, je sais. Bon, voilà. Donc, c'est en chemin, mais c'est pas encore très défini. Mais bon, je me pose la question et moi, ma manière de ce que j'imaginerais, c'est vivre plutôt en communauté de toute façon,
okay.
dans les montagnes avec la rivière et des petites cabanes et des petites maisons, tu vois, bon voilà, grande hippie, mm-hmm. bonjour. Et dans ces cas-là, pour moi, j'aimerais avoir ma petite maison à moi déjà, parce que je crois que ça me plairait de vivre, d'avoir ouais. mon espace à moi toute seule et d'avoir des espaces communs et qu'il y ait des enfants dans tout le temps là-dedans. Potentiellement que plusieurs partenaires vivent sur place. Je trouve que l'idée que du coup on puisse éduquer les enfants avec plusieurs figures parentales mm-hmm. qui sont présentes, je me dis mais trop bien. Et du coup que la charge aussi, moi j'ai l'impression que éduquer des enfants à juste deux avec en plus peu de congés parentaux et les travaux, enfin le travail tel qu'on l'a où tu rentres tard, etc. J'ai l'impression que c'est pas du tout écologique. Enfin je comprends pas comment ouais. c'est possible et je vois les parents comme ça avec les poussettes dans le métro et je suis là ouf. En tout cas ça m'excite pas quoi comme image.
Mais en tout cas t'as cette notion d'avenir et de construire des choses avec des gens quoi.
Ouais. On verra hein. Mais c'est une image qui me plaît quoi.
Ouais. Souvent moi il y a plein de gens qui me parlent du couple ouvert où la plupart du temps c'est des gens qui sont mal dans leur couple et qui ont l'impression que la solution c'est d'ouvrir leur couple. Et en fait, qui n'est pas juste un truc de construction, qui est même un truc de fuite. Et souvent, après, c'est des gens qui essaient de faire ça. En fait, ça s'empire et ils finissent par se séparer. Est-ce que, toi, c'est des choses que tu vois? Et est-ce que tu arrives à faire la différence, justement, entre ces trucs de fuite et vraiment ce truc de polyamour qui demande des vrais efforts, pour le coup, et qui n'est pas juste une fuite, quoi?
Dans mes cercles en France, je ne rencontre pas beaucoup de gens polyamoureux, en fait. Okay. Donc, moi, c'est plutôt à l'étranger, en général.
Ouais.
Mais... un truc que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'au final, même si tu as choisi d'explorer le couple ouvert ou le polyamour pour les mauvaises raisons, au final, ça va t'amener à faire les expériences que tu avais besoin de faire et à comprendre les choses que tu avais besoin de comprendre pour peut-être te séparer de cette personne ou pour, tu vois, et ça se trouve, c'était le chemin que tu avais besoin de prendre. Du coup, je me dis, bah, ça se trouve, c'était peut-être super juste, en fait, tu vois, de tester les choses comme ça et d'expérimenter. Après, c'est clair que... si tu discutes de genre, ok, viens, on ouvre le couple, je me dis, c'est intéressant de se poser les questions de c'est quoi nos motivations, quel est l'état du couple aujourd'hui, et si notre envie, c'est vraiment que le couple perdure, de peut-être pas choisir le moment où on est déjà en train de tanguer, et c'est genre, c'est hyper compliqué, de venir rajouter des complications, parce que ouais, c'est complexe, quoi, d'ouvrir le couple. Et en même temps, enfin moi je suis quelqu'un, je peux pas dire oui ou non, mais et en même temps, ça se trouve, c'est genre le truc qui manquait à la relation.
Est-ce que la tromperie, elle existe dans le couple ouvert? Parce qu'on peut avoir cette idée reçue de se dire, ah en fait ça veut dire que tu peux coucher avec tout le monde et c'est ok, et là, t'as éradiqué la tromperie. Mais tout à l'heure tu me disais, quand t'as testé ça aux États-Unis, t'as rencontré la meuf d'un des gars, etc.
Ouais.
Donc j'imagine qu'il y a des contraintes et des contrats ouais. en quelque sorte différents.
Ouais.
Et ça veut dire que même en couple ouvert, tu peux rompre un peu le contrat et, tromper ta partenaire, quoi.
Carrément. Tu as tout dit.
Voilà, je suis un expert en...
en couple ouvert. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est des relations sur mesure. Donc, tu définis exactement le style de relation que tu veux, ce que je trouve génial. Tu vois, quand on parle de fidélité... on part du principe que genre on sait ce que ça veut dire la fidélité, mais la fidélité c'est respecter le contrat qu'on a défini ensemble. Sauf que la plupart des gens ne définissent pas le contrat en fait. Ils partent du principe genre ça y est, on est en couple, ok. Donc il y a toute une liste, mais un non nommé de règles. Sauf que toi et moi on n'a pas la même liste en fait, et on croit qu'on a la même liste, et du coup on s'est dit genre oui c'est bon, on est en couple, donc ça veut dire qu'on est d'accord. Et après, t'as des histoires de genre de malentendus, en fait, ouais. terribles. Et donc, ce que j'aime dans les histoires de couple ouvert, polyamour, c'est qu'on va venir définir c'est quoi le contrat, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos règles. On s'est mis d'accord sur des choses et donc on peut ne pas les suivre, quoi. Ouais. Enfin, et donc, il peut y avoir tromperie, effectivement. Ouais.
Du coup, par exemple, entre les trois mecs dont tu parles, donc tes trois mecs, du coup, ouais. t'as des contrats différents?
Quand j'ai débuté le couple ouvert, j'avais beaucoup plus de règles,
okay.
Parce que c'était rassurant. Et là, les seules règles auxquelles je peux penser, mais j'espère que je me trompe pas et qu'ils vont pas voir la vidéo en mode genre meuf.
Pas du tout.
C'est pas du tout ce qu'on a dit. Les règles, c'est safer sex. Donc, on parle de capote et de... avec chaque partenaire avec qui on va coucher, on a une discussion de genre c'est quoi tes pratiques, est-ce que tu t'es fait tester, etc. Bon, ce qui me paraît être une règle ouais. que tu ne peux vraiment pas pas enlever, quoi. Genre, bien sûr. Ouais. Je pense que vraiment tout le monde devrait avoir cette règle. On part aussi plutôt du principe qu'on se dit les choses, qu'on se raconte l'histoire, mais il n'y a pas de règle sur quand, comment, même si moi j'ai une préférence de savoir un peu en amont.
D'accord. Ah, donc tu sais quand un de tes mecs va rencontrer une meuf, va passer la soirée avec elle, etc. quoi.
Bah, c'est, oui, mais là, il y a des différences, tu vois, entre les deux, par exemple, dans le sens où il y en a un où je suis moins... on est moins au téléphone tout le temps ensemble, on se raconte moins les choses, tu vois, au quotidien. Du coup, c'est possible que genre, je ne sache pas exactement à qui il voit. Il y en a un où on est au téléphone tous les jours, je sais son emploi du temps, tu vois. Genre, c'est facile, du coup, aussi bah, de se dire, bah oui, je vais voir, je vais avoir une date avec machin, etc. Donc, ça dépend aussi de la relation, mais ce n'est pas une règle genre, stricte. C'est plus, ça se fait, tu vois.
Ouais. Et le fait de savoir, ça ne te crée pas des moments où tu es... en train de regarder une série dans ton lit et tu dis ok, pendant ce temps-là, il est avec quelqu'un d'autre, super, ok, c'est bon, tout se passe bien. Non, c'est ok pour moi, tout se passe bien, aucune jalousie, aucune insécurité.
Récemment, j'ai passé 2 semaines d'angoisse, c'était hardcore, parce que j'allais à une retraite avec un de mes partenaires. Donc une retraite, c'est une sorte de stage, une semaine avec pas mal de gens, quoi. Et notre... enfin voilà, on est plutôt dans une relation où on n'a pas beaucoup de règles, quoi. Et on a plutôt envie de soutenir la liberté et le fait de pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie et de se soutenir là-dedans. Mais du coup, là, on est dans un contexte qui était nouveau pour nous. On y avait genre 20 personnes et on avait le droit de faire du sexe avec qui on l'est. C'était un événement plutôt sexe positif avec que des gens qui sont à l'aise dans ces milieux-là aussi. Mon niveau d'anxiété a monté. Et ce que je réalise aussi, c'est que c'est pas tant, pour moi en tout cas, c'est pas tant le fait qu'il couche avec quelqu'un, qu'il flirte avec quelqu'un, c'est comment il prend soin de moi, en quelque sorte, à travers ses expériences. Okay. Et les moments les plus durs, c'est quand, même et quand on était à distance, les premières fois où il avait une date avec quelqu'un, je sens la communication qui est très différente tout d'un coup dans les messages, dans... c'est beaucoup plus genre froid et distant en quelque sorte. Okay. Et ça, moi, ça me fout en l'air. Parce que du coup, je suis genre, la relation est différente. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu son amour. Genre, et je pars dans mes histoires, etc. Et petit à petit, on travaille là-dessus, du coup, pour qu'il comprenne genre, ma manière dont j'ai besoin qu'il communique avec moi. Et que moi aussi, je comprenne de mieux en mieux genre, son cerveau, ses pensées, qu'est-ce qui se passe pour lui dans ces moments-là. Et que je puisse me dire, genre, non, en fait, je sais ce qui se passe. Il est dans tel état d'esprit. C'est pour ça qu'il fait comme ça. Et que j'aille pas dans mes histoires à moi qui sont bien plus horribles, du type ça y est, il m'a oublié, il s'en fout de moi, etc., etc. Donc j'ai l'impression
que c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les couples exclusifs aussi, sur plein d'autres choses, en fait. Ta partenaire part au travail et d'un coup, tu sais plus pourquoi t'as plus vraiment de nouvelles, ou part dans des voyages, des trucs comme ça. Mmh. Et où même, des fois, c'est pas du tout lié au fait qu'il rencontre d'autres personnes, c'est juste qu'il fait sa vie et tout.
Ouais.
Et du coup, tu sens que la priorité est plus la même sur toi, quoi.
Exactement, c'est ça. Et donc, et après, ça rajoute une couche parce que on nous a appris que si ton partenaire couche avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il t'aime plus. Ouais. Et donc, ça demande un travail genre vraiment conscient de déconstruction de ces croyances-là et de revenir à genre non, mais on a décidé ça ensemble. J'ai choisi d'être polyamoureuse et moi, quand je couche avec quelqu'un d'autre, j'arrête pas de l'aimer, en fait. Je l'aime toujours. Mais pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est une sorte de gymnastique intellectuelle que je travaille. Et là, j'ai la sensation que je suis de nouveau débutante, parce que c'est polyamour. Okay. C'est différent, c'est plus engageant en termes d'émotion, quoi. Et donc, de nouveau, mes muscles sont rikiki, quoi. Donc, il faut que je cravache un peu plus, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, c'est... t'as commencé en couple ouvert, donc avec un partenaire, et vous pouviez aller voir ailleurs. Mm. Et petit à petit, ça s'ouvre. Et dans ce cas-là, tu gères presque 3 couples ouverts, quoi.
Ouais, mais c'est plus vaste que ça, parce que je suis dans une dynamique où j'ai envie que vraiment il y ait de l'amour qui circule, et donc que mes partenaires puissent se rencontrer aussi, qu'il y ait une sorte de fluidité, tu vois, entre tout ça. Donc j'en ai deux, les deux nouveaux, ils se sont fait un appel d'une heure et demie, tu vois, pour discuter, se rencontrer, mieux se comprendre, etc. Parce que eux aussi, du coup, à des moments, avaient des insécurités, et en fait, une tendance que moi aussi j'ai, c'est je veux pas voir, je peux pas entendre parler de cette personne, etc. Et en même temps, quand tu la connais pas, tu peux plus vite... te faire des films sur cette personne, quoi, ouais. Et la déshumaniser, tu vois, et la rendre terrible.
Et quand t'as eu la révélation de tout ça, donc avec vraiment ton premier amoureux, et que tu te dis, ok, on essaie le couple ouvert, etc., c'était quoi les moments les plus compliqués ?
Réfléchir à est-ce qu'on a un droit de veto ou pas, par exemple.
Ok, revenir en arrière à tout moment ?
Ouais, c'est-à-dire
ah non,
que,
ou dire non
dire, sur... genre au tout début, il y avait avec le premier partenaire la possibilité de il est en date avec quelqu'un et si moi je décide que j'en peux plus et que c'est trop dur, je lui dis genre tu rentres chez toi, c'est fini.
Okay.
Genre tout contrôle, tu vois, enfin presque tout pouvoir sur la situation, okay. En mode genre c'est moi la plus importante, notre histoire est la plus importante. Je trouve que c'est assez toxique comme comportement. Ouais.
Et puis ça recrée des frustrations et ça,
ouais, et
ça déséquilibre aussi.
Pour la personne en face, la tierce personne, c'est hardcore.
Ouais,
parce que t'es en date avec quelqu'un et t'as sa copine qui l'appelle, qui fait genre « En fait, non, c'est plus possible. » Et tout d'un coup, tu dois dire au revoir. Enfin, et il y a des gens qui ont ce droit de veto et qui vont dire à quelqu'un, alors que c'est quelqu'un... leur autre partenaire, il le voit depuis, je sais pas, 6 mois. Et tout d'un coup, il dit genre « Non, c'est fini. » Et t'as même pas le droit de lui envoyer un message de revoir, quoi. Genre « Ciao. » Et on parle souvent de ces histoires du privilège du couple primaire par rapport aux relations, tu vois, qu'on pourrait appeler secondaires ou des relations qui gravitent autour. Et il y a quand même une problématique éthique là-dedans, de genre, mais c'est des vrais êtres humains qui ont des émotions, qui ont des sentiments, on en prend soin ou pas, genre. Et moi, je sais que je l'ai fait à ce moment-là parce que les livres que j'ai lus, ils parlaient de veto et que ça avait l'air d'être une règle qui avait du sens et que j'étais en train de reconstruire aussi cette blessure d'infidélité et j'avais vraiment besoin de sentir que je suis la priorité, etc. Et on l'a fait une fois où j'ai vraiment fait mon truc de droit de veto. Je lui ai dit genre franchement, genre rentre chez toi, j'ai besoin qu'on s'appelle, genre c'est horrible. On s'est appelé, c'était hardcore, on s'est pris la tête. Et après ça, j'ai fait, ok, non, en fait, je crois que d'avoir autant de la main mise sur lui, ça crée plus d'angoisse au final qu'autre chose. Et je préfère en fait travailler plus, genre, comment est-ce que je peux me sentir plus en sécurité, comment est-ce que je peux travailler la confiance, plutôt que le contrôle qui te donne une sorte d'illusion de sécurité. Mais qui vient pas, au final, qui vient pas nourrir ce truc de sécurité profonde, de genre cette personne m'aime et elle veut être avec moi, parce qu'elle a arrêté le date, parce que je lui ai dit que. Tu vois, je sais pas, ça fait un truc. C'est caca, ça. Ça marche pas. Enfin,
et puis en fait, tu joues pas le jeu du lâcher prise aussi, de se dire aussi, moi potentiellement, si j'ai envie de le faire, j'aimerais pas qu'on le fasse non plus, et il faut tous qu'on lâche prise là-dessus, quoi. En termes de confiance, etc.
Et comment tu vas créer quelque part quelque chose de plus, une sécurité intérieure plus profonde qui sera plus malléable et capable de s'adapter à différentes situations plutôt qu'un truc, tu vois, rigide où on contrôle, etc. Et en tout cas, moi, ma vision des choses maintenant, c'est qu'effectivement, les vétos, je suis un peu frileuse par rapport à ça. Et si je devais mettre en relation, enfin, tu vois, je rencontre un couple qui me dit on a un droit de veto. Je ferais gaffe, quoi, de pas trop du coup m'engager émotionnellement, parce qu'à tout moment, ça peut s'arrêter, quoi.
La semaine dernière, j'ai reçu Sœur Marie-Ange, et on a parlé d'amour. Je m'attendais pas à ça, mais en fait, ça fait partie aussi de ses choix de vie, etc. Et elle, elle parlait du climat actuel où elle trouvait que dans l'amour on avait beaucoup moins d'engagement et de stabilité. Donc là, tel que t'en parles, on voit que l'engagement il est réel, parce que t'as un engagement avec chacun, chacune, etc. Et il y a des règles et tu t'investis dans des relations. Est-ce que la stabilité, toi t'as l'impression d'être dans quelque chose de stable ou c'est quelque chose de mouvant constamment? En sachant que je me demande si, ça c'est tu vois, un questionnement perso, si de toute façon même dans un couple exclusif la stabilité elle est un peu fake. Tu vois, est-ce que tu perpétues des codes de ok, on a la maison, on achète après les enfants, nanani, le mariage, etc., etc. Et où en fait, de toute façon, l'amour est toujours très instable. Mais est-ce que toi, tu as l'impression de construire quand même quelque chose et d'avoir un socle qui, toi, te rassure quand même et de dire ok, j'ai une stabilité de vie, quoi.
Ouais, c'est quoi la stabilité de vie? Genre, c'est. Moi, un truc sur lequel je me. Qui m'intéresse plus, c'est de cultiver la fluidité, parce que j'ai l'impression que la vie, tu vois, la vie, elle est mouvante, enfin, la vie, il se passe toujours des nouveaux trucs, et que comment est-ce que je peux faire pour vivre au mieux ma vie c'est d'être capable de danser avec toutes ces choses qui arrivent dans ma figure et donc de cultiver une forme de fluidité par rapport à ça et qui, je pense, apporte une forme de stabilité, tu vois. Cette confiance en moi que peu importe ce qui se passe, je sais que je peux retomber sur mes pieds, je sais que j'ai un réseau de soutien autour de moi, je sais que j'ai appris des compétences qui font que je saurais communiquer, dire mes besoins, etc. Et donc ça, ça me crée un socle, en fait. J'ai l'impression, comme tu dis, que la société nous a vendu des symboles, des trucs forts qui représentent la stabilité, comme la maison, le chien, les enfants, le travail, le CDI, etc. Mais qui pour moi sont des... Enfin, qui peuvent l'être, mais ne le sont pas nécessairement.
Ouais.
Et qu'au-delà de ces trucs matériels qui, au final, enfin, on le sait, il y a des gens, ils ont la maison, ils ont les enfants, mais ils sont pas en sécurité dans cette maison. Ils se sentent pas safe dans la relation avec l'autre. Ils ont pas la sensation de pouvoir se montrer, être authentique, parler de leurs émotions. Les gens sont presque des inconnus, tu vois, l'un face à l'autre.
Est-ce que t'es beaucoup plus heureuse et t'as l'impression que c'est beaucoup plus toi aujourd'hui que quand t'étais dans des couples exclusifs?
Clairement, je kiffe quand ça se passe bien et que j'ai le sens, l'amour des trois et le soutien des trois et qu'on est tous les trois heureux, genre, mais c'est la meilleure vie, quoi, enfin, trop cool. Et quand c'est la galère, c'est la galère.
Ouais.
C'est, quand t'as les trois relations qui s'effondrent un peu, c'est à des moments, tu fais genre, oh putain, ouais, c'est le Titanic, là, genre, comment on fait?
Bah, en plus, quand t'es dans un couple exclusif, quand la personne avec qui t'es est en down et pas bien et tout, c'est déjà très compliqué, tu vois, de lui apporter l'attention et tout. Mmh. Donc j'imagine que tu multiplies ça par 3 en même temps. Mmh. Tu dis, ok, comment on va faire là?
Ouais, donc ça apporte d'autres problématiques, tu vois. Mais c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est que c'est des problématiques que je suis prête à travailler.
Est-ce que tu crois qu'un jour tu vas rencontrer un mec et tu vas te dire, ok, lui en fait, c'est obligé, en fait, c'est lui ou rien, quoi?
Je sais pas, tu vois. Mais
c'est pas l'état d'esprit dans lequel t'es là aujourd'hui.
Ouais, et ça me paraît et parce que en fait c'est tellement vaste la manière de vivre la non-monogamie. Tu pourrais je pourrais avoir de nouveau une relation très qui paraît très monogame, mais où on a du sexe, on fait des orgies, tu vois, tous les dimanches soir.
Ouais, ok.
Et c'est que c'est pas vraiment le couple monogame traditionnel, tu vois. Je reviendrai pas à la relation traditionnelle telle qu'on me l'a apprise. Après, quel type de forme ça va prendre au cours de ma vie? Ça peut varier énormément, je pense. Ouais.
Parce que toi, aujourd'hui, le polyamour, ça répond pas à un besoin de te dire j'ai envie d'avoir plein de partenaires sexuels, de juste te dire ok, je pourrais en effet être en couple, comme beaucoup de couples ouverts, tu vois, qui disent bah moi j'ai des besoins sexuels de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres corps, etc. etc. Toi, t'as au-delà de ça ce besoin de vivre des vraies relations amoureuses. Donc des vraies relations de couple avec d'autres gens qui vont beaucoup plus loin que le sexe.
Ouais, j'ai les deux. Et pour moi, c'est pour l'instant dans ma vie, c'est pas évident de faire du sexe sans l'aspect émotionnel, affectif, okay, plus intense. Donc quoi qu'il arrive, je crée un lien avec les gens avec qui j'ai de la sexualité. Ce que le polyamour m'a aussi apporté, c'est de, je sais pas, modifier un peu ma manière de voir les relations en général, donc c'est-à-dire de désolidariser sexe et romantisme, et amitié peut devenir amitié avec du sexe.
Dans un couple exclusif, t'as l'impression que tu dois remplir tellement de caractéristiques, ouais, tu vois, que ce soit dans la sexualité, dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est un peu genre ta meilleure amie et en même temps le partenaire sexuel de rêve, etc. Et ça peut être aussi une vraie pression de se dire en fait je suis pas toutes ces personnes-là en même temps, quoi.
Ouais, bah je pense, ouais, carrément, que ça peut complètement aider là-dessus, quoi. Et de dire, de rentrer dans ce principe de non, tu ne seras pas mon tout. On nous a tellement appris ça que même moi j'ai envie d'avoir des partenaires où c'est mon tout, tu vois. C'est genre, ils me complètent tellement et t'as des moments où tu le ressens, mais en fait il y a plein d'autres parts de toi. On est tellement vaste, on est tellement multiple que tu vois, à chaque rencontre ça va nous faire allumer d'autres lumières, quoi.
Ouais. Comment on drague quand on est en couple ouvert ou en polyamour? Parce que j'imagine, t'expliques à chaque fois quand tu rencontres quelqu'un.
La drague, c'est complexe pour moi. Je sais pas trop comment on fait. Je pense que j'ai biaisé le truc en allant dans des milieux où c'est très naturel. Enfin, je vais dans des milieux sexpositifs, par exemple. Donc, okay, on fait un week-end de 4 jours et tout. Enfin, tout le monde n'est pas forcément polyamoureux, mais tout le monde a quand même une sorte d'ouverture à on peut faire du sexe avec plusieurs personnes, etc. Donc en général, ça paraît assez normal d'avoir ce type de relation. Même dans le milieu de la danse où j'allais, de couple que moi je faisais, il y avait pas mal de gens polyamoureux. Ça faisait partie de la culture de cette communauté en quelque sorte.
C'est quoi la suite là pour toi? Est-ce que là il va y avoir du coaching qui arrive, enfin des retraites qui arrivent?
Ouais.
Comment tu t'abordes ça? Là, tu sors d'une grosse période de doute et en même temps, ça t'a appris beaucoup de choses.
Ouais.
Comment tu vois l'année qui arrive pour toi?
Quand j'étais en gros doute, j'étais en mode « je vais tout annuler et aller dans une cabane dans la forêt et lire des livres ». Voilà, donc j'ai des phases comme ça où je veux devenir ermite et ne plus voir personne et en mode genre les relations c'est trop dur.
Si tu veux, je connais une bonne sœur ermite qui
c'est vrai. Ben voilà, si je vais tu cherches une autre vocation de... Et c'est toujours une possibilité, hein. Je me fais des moments comme ça où je m'isole etc. et ça me fait beaucoup de bien.
Je crois que ça fait du bien globalement. Moi j'aime bien des fois me dire vas-y je plaque tout.
Ouais.
En fait ça te fait prendre du recul sur tous tes problèmes. Tu dis là si je plaque tout, tes problèmes paraissent minuscules et c'est ok. Mais après, il faut reprendre cours à la réalité derrière, quoi.
Ouais, ou puis s'autoriser à dire, mais ça se trouve, j'ai le droit aussi de tout plaquer. Là, j'ai repris un petit peu du poil de la bête, donc je me sens un peu plus énergisée. Et j'ai une retraite sur l'amour en général, mais où on va avoir un focus aussi sur les relations non monogames, ou genre, quels sont les outils qui, pour moi, t'aident, tu vois, dans n'importe quel type de relation, hein, tu vois, la théorie de l'attachement, la communication, l'honnêteté radicale, comment tu gères tes émotions, etc., etc., en mai. Et mon année, elle est divisée entre les moments où je vais aux États-Unis pour voir mon amoureux et les moments où je suis en France, où j'organise des événements, des retraites et où je vois mes autres amoureux et mes amis, etc. Enfin, tu vois.
Ça fait des journées bien remplies.
Le timing, c'est compliqué quand t'es polyamoureux, je trouve, de gérer toutes les différentes relations et les amitiés, etc. Et en même temps, moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin nécessairement de voir mes amis tout le temps, mais j'aime bien avoir des moments définis, tu vois, où genre on prend une vraie grosse journée, où on se loue une maison pour un week-end et on est à fond. Et pour moi, ça fonctionne.
Merci beaucoup, Nina, c'était trop bien. C'est
trop
cool qu'on fasse
toi.
Ça plus de 9 minutes, là, c'était cool.
Ouais, j'ai eu le temps, j'aime bien parler de ça du coup.
Qu'on ait le temps de discuter. Et peut-être que je te réinviterai dans 3 ans et on refera un point.
Je te dirais, le polyamour, c'est terrible, c'est fini.
Terminé. Maintenant, j'ai 8 enfants, je suis en stabilité, j'ai mon chien, ma maison. C'est très bien.
C'est vrai, ça se trouve, voilà, ce sera ça le bonheur. Hein. Who knows?
Peut-être. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a hacer tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.